Je commence par citer quelques témoignages de cette foi séculaire de l'Église en ce mystère de notre solidarité dans le Christ. Je verrai ensuite comment Thérèse se représentait cette solidarité. Saint Augustin, par exemple, exhortait souvent ses fidèles à se réjouir de toutes les bonnes œuvres accomplies par d'autres chrétiens. « Partout où s'accomplit une œuvre bonne, disait-il, elle nous appartient à nous aussi si nous savons nous en réjouir. » Et les membres du corps du Christ sont tellement unis les uns aux autres que ce que l'un ne peut réaliser par lui-même, il l'accomplit en quelque sorte par un autre. L'évêque d'Hippone explique par exemple à la veuve Proba, et à toutes les veuves et vierges qui vivent avec elle, « Les jeûnes, les veilles et toutes les mortifications de la chair sont d'un puissant secours pour la prière. Que chacune de vous fasse ce qu'elle pourra. Ce que l'une ne peut pas faire, elle le fait dans l'autre qui le peut, si elle aime dans cet autre ce que sa faiblesse ne lui permet pas d'accomplir elle-même. Enlève l'envie, écrit encore saint Augustin, et ce que j'ai est à toi. La jalousie sépare, la charité unit. Et donc la charité et tu auras tout. Tolère, dominicain strasbourgeois du XIVe siècle, qui appartient à ce qu'on appelle la spiritualité rhénane, l'école rhénane, revient souvent sur la possibilité qui nous est donnée de participer au mérite des saints. Et Thérèse avait été heureuse de trouver chez le mystique rhénan une confirmation de ses idées sur le sujet. Elle le cite de mémoire. Elle avait lu le passage dans un livre de la bibliothèque du monastère, mais elle ne s'embarrasse pas pour donner des citations exactes. « Si j'aime le bien qui est en mon prochain, plus qu'il ne l'aime lui-même, ce bien est à moi plus qu'à lui. Si j'aime en saint Paul toutes les faveurs que Dieu lui a accordées, tout cela m'appartient au même titre qu'à lui. Par cette communion, je puis être riche de tout le bien qui est au ciel et sur la terre, dans les anges, les saints et tous ceux qui aiment Dieu. » Et c'est cet argument qu'utilisait Thérèse lorsqu'une religieuse venait lui dire « Ma sœur, moi je n'arriverai jamais à la sainteté d'une telle ou d'une telle. Ma sœur, je vous envie parce que vous êtes généreuse, vous. Moi je n'arriverai jamais à cette générosité. » Et Thérèse ne répondait pas par de la fausse humilité en disant « Mais non, je ne suis pas si généreuse que cela. » Elle disait « À supposer que je sois plus généreuse que vous. Si vous offrez à Dieu cette générosité, elle vous appartient. C'est comme si vous l'aviez fait vous-même. » Combien de jalousies seraient tuées à la racine si l'on comprenait bien cette vérité. Thérèse revenait sans cesse là-dessus. Au lieu de vous attrister à la pensée que vous n'êtes pas aussi merveilleux qu'un Jean Vanier, dirait-elle maintenant, ou qu'une mère Thérésa, au lieu de vous attrister d'être bien petit, d'être bien faible par rapport à ces géants de la charité, offrez donc à Dieu leur générosité. C'est un bien de famille. Quand un enfant dans une famille vient de réussir à son baccalauréat, on sable le champagne, c'est la fête. Le succès du frangin, c'est le succès de toute la famille. Eh bien, en Église, c'est la même chose. Le succès d'un frère, la générosité d'un frère, la ferveur d'un frère, ça m'appartient. Au lieu de me dire « moi, je suis moins bien », au lieu de râler, j'offre à Dieu ce que font les autres. Et du coup, je participe à leur mérite. Je pense que beaucoup de conversations vinaigrées seraient supprimées si l'on était persuadé de cela. Nous le faisons sans trop nous en rendre compte à chaque messe. Dans chaque Eucharistie, nous offrons à Dieu non seulement les mérites de Jésus-Christ, mais les mérites de la Vierge, de tous les saints. Par lui, avec lui et en lui, c'est toute la générosité des autres que nous offrons à Dieu. Et Dieu ne regarde pas ce que nous avons dans les mains. Ça ne nous appartient pas, il voit la joie avec laquelle nous lui offrons tout cela, et cette joie le ravit. Je crois que c'est extrêmement important. Nous participons au mérite des saints. C'est vraiment l'un des aspects fondamentaux de la communion des saints. Beaucoup de romanciers et de poètes contemporains ont célébré ce mystère. Léon Blois, tel mouvement de la grâce qui me sauve d'un péril grave, a pu être déterminé par tel acte d'amour accompli ce matin, ou il y a 500 ans, par un homme très obscur de qui l'âme correspondait mystérieusement à la mienne et qui reçoit ainsi son salaire. Et avec une pareille audace, il écrivait « La bataille de la Marne qui a sauvé la France a probablement été gagnée grâce à la prière d'une petite fille qui vivra dans 300 ans. » puisque la communion des saints déborde le cadre de l'espace, il peut aussi déborder le cadre du temps. Peut-être bien que la générosité que vous avez aujourd'hui a contribué à la sainteté de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Pourquoi pas? Bon, c'est une chose que je ne prêche pas souvent, ça. Toujours est-il que Thérèse disait, quand j'arriverai au ciel, je me rendrai compte que je devais sans doute toutes les grâces reçues aux prières d'une âme qui m'aura demandé au bon Dieu et que je ne connaîtrai qu'au ciel. Quand je vais visiter la basilique de Lisieux, qui repose sur des piliers qui vont chercher le calcaire à 35 mètres en dessous du sol, je rappelle que la sainteté de Thérèse s'enracine dans la sainteté des autres. Thérèse avait conscience que tout ce qu'elle avait reçu, elle l'avait reçu sans doute à cause de quelqu'un plus saint qu'elle, mais qui aurait demandé tout cela pour elle. Les personnages imaginés par Georges Bernanos baignent dans cette ambiance de communion des saints. Ils se sauvent les uns des autres. Ils se sauvent les uns les autres. Par exemple, dans le journal d'un curé de campagne, le docteur Delbande se suicide à l'orée d'un bois. On le retrouve inanimé avec sa carabine de chasse toute proche de lui. Bon, manifestement, il s'est suicidé. Point de suspension dans le livre. On apprend que cette nuit-là, le curé d'Ambricourt, le héros du roman, a résisté à une tentation terrible de désespoir. Bernanos veut ainsi signifier que le docteur Delbande est sauvé parce que, au même moment, le curé, son grand ami, a résisté à la tentation du désespoir. On retrouve la même chose dans le dernier ouvrage de Bernanos, Dialogue des Carmélites, son testament spirituel, qu'il a composé d'ailleurs dans le jeûne le plus absolu, parce qu'à ce moment-là, il était en Afrique du Nord et que son estomac ne supportait plus rien. Et alors, il met en œuvre les Carmélites de Compiègne, dont l'histoire a été revue et corrigée par Gertrude von Lefort, la dernière à l'échafaud. Et dans cette pièce, on voit au début la vieille prieure, une sainte fille, mourir d'une façon lamentable. On devine qu'elle est tentée de se suicider, comme Thérèse l'a été quand elle était très malade. D'ailleurs, la mort de la vieille prieure au début de la pièce, c'est la mort de Thérèse, pour Bernanos. Et cette prieure vient d'admettre dans le monastère une demoiselle de la force qui porte bien mal son nom d'aristocrate puisqu'elle est toute faiblesse. Mais on se dit, peut-être qu'en cas de persécution, elle arrivera quand même à être martyre. Et les religieuses s'étonnent que cette vieille prieure, toute consommée en perfection, soit morte d'une façon si lamentable, si pauvre, si abandonnée. Ce n'est pas une sainte mort. Et alors les deux plus jeunes de la communauté, sœur Constance, la sœur Guillerette, la sœur Marie de la Trinité de la communauté, et sœur Blanche de la Force, l'héroïne de la pièce, discutent, échangent, à propos de la mort de la prieure. Pensez à la mort de notre chère mère, sœur Blanche. Qui aurait pu croire qu'elle aurait tant de peine à mourir, qu'elle saurait si mal mourir? On dirait qu'au moment de la lui donner, le bon Dieu s'est trompé de mort. Comme au vestiaire, on vous donne un habit pour un autre. Oh oui, ça devait être la mort d'une autre, une mort pas à la mesure de notre prieure, une mort trop petite pour elle, elle ne pouvait seulement pas réussir à enfiler les manches. Ça veut dire que cet autre, lorsque viendra l'heure de la mort, s'étonnera d'y entrer si facilement et de s'y sentir confortable, peut-être même qu'elle en tirera gloire. Voyez comme je suis à l'aise là-dedans, comme ce vêtement fait de beaux plis. On ne meurt pas chacun pour soi, mais les uns pour les autres, ou même les uns à la place des autres, qui sait? Et du coup, sœur Constance, sans avoir l'air d'y toucher, donne la clé de la pièce. Au début de la pièce, celle qui aurait dû mourir facilement meurt difficilement, pour qu'à la fin de la pièce, sœur Blanche de l'agonie du Christ, qui aurait dû monter très difficilement à l'échafaud, monte comme en se jouant.